Vous vous souvenez, vous, du premier disque que vous avez acheté?
Le premier disque? Mais c'était pas acheté, c'était les disques de mon frère, c'était les 45 tours. J'ai fait tout Paris pour retrouver Shaking All Over. J'ai un mal de chien à retrouver la pochette originale. Parce que c'était... Vous savez, Johnny Kidd. C'est un disque très rare, j'ai fait tous les disquaires de Paris, introuvable. Et finalement, je l'ai trouvé dans un album, un livre sur les années 50 et 60. Il y avait toutes les pochettes de disques. Et là, il y avait enfin, je l'ai recollé sur un... J'ai pas retrouvé le disque original, mais je l'ai recollé sur une pochette de 45 tours pour faire comme si, quoi. Pour restituer à l'identique la pochette de Shaking All Over.
C'est Johnny Kidd et les Pirates.
Oh, puis c'est ça.
Oui, donc les on peut dire les premiers disques, ça passe par le truchement de votre frère aîné.
Oui, absolument. Oui, c'est ça. Quand j'avais 14-15 ans, on avait un tourne-disque comme ça, un Philips, dans la maison d'Aurillac et de Versailles, et on écoutait les disques de mon frère. On mettait une rondelle sur... Non, c'est même pas, il y avait une sorte de triangle au milieu pour les 45 tours, et on mettait les... C'était un Philips, et on mettait les 45 tours.
C'était la platine disque familiale.
Il n'y avait pas de platine, on avait un tourne-disque pour toute la famille. Mes parents écoutaient Chopin et avec Alain on écoutait Gene Vincent et Johnny Kidd.
Chez vos parents, l'environnement, avant que votre frère achète ses premiers 45 tours, c'est l'environnement lui... c'est classique, uniquement classique?
Oui, avant c'était classique. On est un peu Brassens, mais pas beaucoup. Et Alain a commencé à acheter des 45 tours au début des années... Fin des années 50, quoi, il collectionnait dans les magasins de disques d'Aurillac et de Molias. Dès que les disques sortaient, il allait les acheter. Donc il a constitué sa collection de 45 tours depuis la fin des années 50, quoi. C'était un collectionneur, il les collectionnait, quoi. Et après, il en a ramené d'Angleterre. Il était en Angleterre en 65, en séjour linguistique, et il a commencé à rapporter des disques originaux. Donc il y avait les Them, les Pretty Things, les Kings, tous ces 45 tours-là. Et j'ai fait tout Paris pour retrouver les disques originaux, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient disparu. Bon, Alain avait tout éparpillé, quoi. Il avait fait cadeau de sa collection de disques à une association de... caritative. Donc, tous les 33 tours qui sont là, j'ai dû faire tout Paris pour les récupérer. J'avais fait une liste complète.
Parce que votre frère, à un moment donné, s'est séparé de toute sa collection, alors qu'il était collectionneur.
Tout dispersé, jeté aux quatre vents, il avait tout perdu en réalité.
Ça ne l'intéressait plus?
Oui, puis il se rendait pas compte. Bon, les 45 tours, il les a donnés à un copain qui avait besoin de, je sais pas quoi, qui a dû les revendre à la brocante. Il ne faisait pas attention. Moi, méthodiquement, j'ai retrouvé, comme le petit poussé, j'ai retrouvé un à un tous les disques de mon frère. J'y tenais très très fort, quoi. Le Shaking All Over, je l'ai retrouvé sur une cassette, parce que par chance, je l'avais enregistré. En 81 ou 82, j'ai retrouvé une vieille cassette où il y avait l'enregistrement original.
Que vous avez toujours?
Remets-moi Johnny Kidd, on l'écoutait à Versailles. Donc j'ai refait la pochette et j'ai retrouvé, par miracle, sur une vieille cassette de l'année 82, j'ai retrouvé l'enregistrement du 45 tours de mon frère, qui pour moi a une valeur immense, quoi. C'est la Madeleine de Proust, quoi. Quand j'écoute ça, toute mon enfance revient instantanément, quoi. C'est extrêmement précieux. Donc j'ai fait tout Paris pour trouver ça. J'ai enfin retrouvé l'essentiel, quoi.
Et vous l'avez toujours, cette cassette?
Oui, bien sûr. On entend l'intro à la guitare, le tagadagadam, pom 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 pom. Et c'est absolument extraordinaire, quoi.
Ce serait possible de l'écouter?
Si, je ne savais pas où elle est. Elle est dans une boîte, mais je ne sais pas où elle est. C'est difficile, mais bon, Par contre, j'ai fait une cassette où j'ai fait une compilation avec tous les 45 tours d'Alain Enfin. Enfin, j'ai fait une cassette spéciale où il y a tous les 45 tours. J'ai enregistré Red Charles, Gene Vincent. Enfin, j'ai fait une cassette, une compilation, en fait. Une compilation, c'est l'univers d'Alain. C'est une anthologie de tous ces 40-45 tours. Enfin, les meilleurs. Parce qu'on les écoutait en boucle, on les mettait sur le tourne-disque vers ça. On en a écouté 3 ou 4 comme ça. Et la puissance des 45 tours, c'est pas comparable au. Il se passe quelque chose, quoi. Il y a même les crachotis de l'aiguille sur la.
Le son n'est pas le même.
Oui, le son est extraordinaire. Quoi. Le fait de mettre un 45 tours sur le plateau et de l'écouter en son original, ça fait quelque chose d'incroyable.
Avant ça, le matin. Mais cette cassette-là aussi, vous ne savez pas où elle est rangée.
Si, elle ne doit pas être très très loin, on peut la retrouver. Elle doit être dans les boîtes, là. Ça, c'est les boîtes des années.
Est-ce que si vous pouviez nous faire écouter.
Oui, je dois la voir ici, quelque part. Il me semble qu'elle est dans le stock. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. On doit pouvoir la retrouver. Oui, c'était des cassettes comme ça, les cassettes des années 80. Mm-hmm. Je les ai réutilisées,
Il y en a une là aussi.
Oui, voilà, il y a les boîtes de cassettes. Il se peut que ça soit. C'est un best-of, c'est une cassette blanche. Voilà, Alan's Rock 60, voilà, c'est ça. Je vais vous faire écouter. Ça c'est le. Tout est parti de là en fait. Ça c'est le point de départ de toute l'histoire. Voilà.
Donc vous avez mené une quête un petit peu pour récupérer un petit peu toute la collection telle que vous en souvenez.
Oui, c'était.
Vous en avez déjà.
Oui, c'était plus que de la psychanalyse, c'était de la résurrection. Quoi. J'ai fait tout Paris pour les retrouver. Tous les bouquinistes, tous les disqueurs, j'allais partout.
C'était quand ça à peu près c'est...
J'ai commencé en 2007, d'accord. 2008. Et j'ai fait vraiment tous les disquaires de Paris pour retrouver les pochettes originales, surtout les pochettes. Parce qu'il y a quelque chose d'incroyablement émouvant, un peu même gondolé ou avec des inscriptions. Alain, il signait au marqueur. Il écrivait Alain Prieur, même sur la pochette intérieure. C'est comme ça que j'ai identifié nos disques à nous, les disques originaux. Et s'il y en a encore des disques d'Alain qui se baladent dans Paris, on peut les retrouver parce qu'il les signait. Alain Prieur. Mmh. Et ma sœur aussi. C'était une tradition. Il signait les disques. Quoi. Quand il achetait un disque, il mettait son empreinte. Quoi. Il signait Alain Prieur. Et c'est. Oui. Et c'est là que j'ai vu que l'écriture de mon frère avait quelque chose de spécial, quoi. De très émouvant. Il y a quelque chose de très émouvant. J'ai commencé à travailler sur les manuscrits d'Alain qu'il avait dans ses tiroirs. Et il y avait quelque chose dans l'écriture. Oui, la graphie de mon frère. D'abord, il écrit de la main gauche. Donc, ça donne un style très particulier à son écriture. C'est une écriture très, très large, comme ça. Il écrit en américain. En voyant les ces vieux cahiers de chansons et. Tous les brimborions, sur des enveloppes, il écrivait tous les endroits, il est allé en avion, il a pris 27 fois l'avion, il a fait une liste, alors il avait écrit Athènes, Héraclion, New York deux fois, Athènes trois fois, il a fait 27 voyages en avion, sur une enveloppe il a fait une petite liste. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai vu qu'il a fait le tour du monde, quoi. Il est allé partout. C'était...
Sur la base de la collection des disques de votre frère, que vous découvrez comme ça, c'est aussi le musicien.
Oui, c'était les disques
c'est de d'abord, la... mais oui, oui. Du coup, pour revenir à la première question.
Quand on a déménagé à Versailles en 68, Alain a évidemment apporté ses... Il les avait à Clermont, mais il les a rapportés à Versailles en 73. Quand il est rentré de ses voyages au Maroc, il avait un placard où il rangeait ses disques. Et là, on a réécouté toute la collection d'Aurillac en 73-74, donc j'ai vu défiler tout l'univers de mon frère. On écoutait Gene Vincent, on écoutait, et puis il écoutait les disques des années 70, donc il avait acheté le Goat Head Soup et puis Bob Dylan, Blown on the Tracks. Puis là, il entamait un nouveau chapitre. Donc après, il m'a fait découvrir les Rolling Stones, les Bob Dylan, les... Au départ, c'était les 45 tours. Puis après, on a écouté tous les 33 tours de Pink Floyd. Et là, il avait une platine plus moderne, quoi. Il avait une Chanify, quoi, à Versailles. Et après, il a transporté à Châtillon. C'était une Chanify avec des baffles, bon, qui était plus perfectionné. Mais le premier 33 tours que j'ai entendu, c'était Blabla dans d'autres choses. Parce que dès qu'il est sorti, quand il était à la clinique de la Verrière, dès qu'il a été bien, un peu mieux, il venait à la maison et on écoutait des Dylan. Early one morning the sun was shining, she was lying in bed, wondering if she changed it all, if her hair was still red. If folks they set their lives together, sure was it gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. He was standing on the side of the road, rain falling on his shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows he paid some dues. Getting through, tangled up in blue. Bon, j'ai découvert la pop musique avec Dylan et Pink Floyd et Rolling Stones, mais surtout au départ des Dylan, quoi. Et ce disque-là de Dylan. Il a une pochette très spéciale parce qu'elle est mate. Il y a une peinture de Bob Dylan au verso. Il y a un profil de Dylan un peu dans le vague, sur un fond carmin, comme ça, c'est carminé. C'est noir, bleu, gris et rouge. Et la pochette est très, très mystérieuse. Et j'aimais beaucoup la regarder, quoi. Il y avait une espèce de rituel. Il prenait un grand soin de ses disques. Donc il les rangeait très soigneusement, il ouvrait la pochette, il sortait le disque, il le mettait sur la platine, il essuyait avec un chiffon. Et on écoutait Bob Dylan religieusement, vraiment. On écoutait Tangled Up in Blue. Et en 2009, quand j'ai commencé à réenregistrer les chansons d'Alain, j'ai travaillé sur Tangled Up in Blue. It's All Over Now, Baby Blue, qui étaient les chansons qu'il jouait tout le temps à la guitare. Donc, l'histoire du groupe de Versailles, ça démarrait comme ça. Ça démarrait avec ce truc-là, quoi. Et là, c'était ça. C'était celui-là. C'était le... C'était ça. C'était celui-là. Ce disque-là. Alain, il prenait sa guitare, il avait une yaillerie à l'époque, une très belle guitare folk dans un étui. Et avant d'aller au lycée, il me jouait un air de guitare. Il jouait Dylan ou alors It's All Over Now, Baby Blue. Et je l'entendais avant de partir au lycée le matin. Et la journée était transfigurée, quoi. C'était complètement... c'était même magique. Il y avait une magie de la guitare. Écoutez-le.
Alors ça ne s'enregistre pas. C'est votre frère en train d'interpréter It's All Over Now, Baby Blue.
Oui.
C'est ça, hein.
En 74.
Ça, c'est ce que vous. C'est le groupe de Versailles.
Il était tout seul, non, c'est lui tout seul, mais on a réenregistré du piano par-dessus. On a remis du piano, on l'a réorchestré. C'était une chanson d'Alain qui jouait à la guitare en 74.
Vous n'avez plus actuellement un appareil qui lit les CD autrement qu'avec les écouteurs, c'est un appareil où on peut l'entendre comme votre site.
Il y a celui-là, mais ça c'est un disque fait à la maison.
Ah oui, ça passe pas.
Il passe pas sur les.
Sur les vieux, sur ces machins-là.
J'ai essayé, mais ça marche. Mm-hmm. On peut mettre.
Il devrait y avoir juste un câble qui vous permettrait de relier votre lecteur à votre poste.
C'est un disque home studio fait à la maison.
Justement, vous le lisez là, et en passant par le petit câble, la sortie ici...
On le branche sur les enceintes.
Vous le branchez sur les enceintes, et vous pouvez l'écouter sur les enceintes.
Ah oui.
Ce serait pas mal. Hein.
Oui, du coup.
Indépendamment de votre frère, à quel moment vous avez commencé à acheter ou à voler ou à emprunter des disques soit que votre frère n'avait pas, soit des choses qui vous plaisaient.
C'est les copains de Versailles. C'est les copains de lycée qui collectionnaient les disques. Donc on allait chez les uns et les autres et ils avaient des collections complètes de... Moi c'était Pink Floyd au départ. Parce que je... C'était la grande révélation. Pour moi, c'était Pink Floyd. Donc, j'allais chez les copains de Versailles. Et quand ils avaient des disques qui m'intéressaient, je faisais des cassettes. Ils avaient des disques de Led Zeppelin, de Yes, de tout ça, de Genesis. Mais moi, j'enregistrais spécialement les disques de Pink Floyd. J'avais toute la collection, j'avais fait des cassettes recto verso où il y avait deux albums de Pink Floyd. Par exemple, il y avait les deux premiers albums sur une cassette, et je découpais dans Rock et Folk les petites images où on voyait les pochettes de disques, et je les collais, et je faisais même les lettrages, les boîtiers des cassettes, Je découpais, je faisais des bricolages pour illustrer les cassettes. Donc il y avait. C'était un travail de décoration. Voilà, par exemple, ça c'est pour Dylan. C'était une forme d'art en fait. D'art graphique. Donc avec des lettres à 7, ou à la main, j'écrivais les. C'était de l'underground, quand on faisait des.
Là, j'ai fait ça aussi.
Des cassettes illustrées, voilà.
J'avais une collection de cassettes et je faisais des lettrages.
C'est une forme d'art, c'est une forme.
Je passais beaucoup de temps à.
C'est une culture pas parallèle, la décoration des cassettes.
Moi, j'avais fini par acheter des petites lettres.
Ah oui.
Avec un stylo pour que ça soit plus voilà, que ça passe plus
ça plus visible.
Plus visible, ouais. C'est Kerouac, non? Oui, c'est Kerouac. Et
voilà, c'est.
D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Bob Dylan cette semaine, mais c'est aussi l'anniversaire de Blonde on Blonde. Ce sont les 50 ans de Blonde on Blonde ce mois-ci.
Voilà. On faisait des. J'ai retrouvé la cassette originale du concert de Knebworth, le concert de Pink Floyd, où j'avais enregistré avec mon
microphone. Ah oui, sur place.
Oui. Et j'avais fait.
Un enregistrement pirate.
Absolument, que j'ai toujours. Et donc, il y avait un travail d'illustration sur le.
C'était quand ce concert de Pink Floyd? C'était en quelle année?
En 75. Knebworth. Et le. Enfin, je sais pas.
Vous avez enregistré d'autres concerts par la suite? Ça vous est.
Donc j'avais fait deux cassettes. Le disque n'était pas encore sorti. Ça s'appelait pas Wish You Were Here. Bon, pas encore en fait. Parce qu'à Knebworth, ils avaient distribué un prospectus, envoyé les Pink Floyd en équipe de football. Ils envoyaient Roger Waters avec des chaussettes rayées. Et puis David Gilmour qui portait un ballon comme ça avec les cheveux blancs, c'était l'équipe Pink Floyd en quelque sorte. Et c'était le programme de Knebworth. C'était un des derniers grands concerts en plein air sur la pelouse du château de Knebworth. Et on avait pris l'autocar à la porte de Saint-Cloud. C'était organisé par RTL. On était une quinzaine de Français, quoi, d'étudiants, de lycéens. Quoi. On avait pris l'autocar, il y avait une journée, une nuit de voyage. Au petit matin, on traversait Londres. Et après, il y avait une cinquantaine de 70 km. On allait au nord de Londres, à Knebworth. Donc on a traversé Londres au petit matin. On voyait les bus impériaux, les cinémas, bon, on a traversé Londres et on est arrivé à Knebworth vers 3h de l'après-midi, 3-4h de l'après-midi.
Et là, vous aviez quel âge?
Sur la pelouse du château de Knebworth.
Et vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 17 ans.
Vous y êtes allé avec votre frère ou
non,
pas
tout seul.
Avec l'accord de vos parents?
Oui.
À l'époque, je me demande s'il ne fallait pas une attestation de sortie du territoire métropolitain pour mineurs, en plus de sa carte d'identité. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais on avait ça quand on partait en vacances à l'étranger. Ou en...
Oui,
c'est ça.
Et il y avait l'intégrale de Dark Side of the Moon, avec le film, avec le dessin animé, on voit la lune, le disque lunaire. Et...
Qui était projeté sur place, pendant le concert.
Et les battements de cœur, comme ça. On voit la lune qui grossit et on entend bob 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 bob. C'était extraordinaire, quoi. C'était absolument fabuleux, quoi. C'était un très grand concert. J'avais tout enregistré de A à Z.
What do you ever say today when you're in the milk?
Milky Way. Oh, tell me please, just to give you a squeeze. If I met you, I told you what to do.
Donc là, c'est la première fois que vous voyez les Pink Floyd en concert. C'était votre premier concert des Pink Floyd, Frédéric.
Vous cherchez un morceau spécifique. Oui. Okay.
Vous cherchez le morceau dont vous nous parliez avec les battements de cœur. J'essaie d'attraper le morceau. Voilà. C'est Laurent qui m'a donné ce. Parfois ça marche.
Qu'est-ce pas. Qu'il vous a donné, Laurent? L'appareil?
Oui, il l'a trouvé dans la rue. C'est un peu difficile. Ça y est, ça marche. Ça s'appelle Moonhead. C'était les concerts de Pink Floyd entre 72 et 75. Ça, c'était l'époque de Rotterdam, en 72. Moi j'y étais en 75, donc ça fait 3 ans de décalage. C'est là qu'ils ont commencé à faire des grandes improvisations fantastiques, cosmiques.
Vous aviez vu d'autres concerts avant?
Non.
C'est le premier.
C'était mon baptême de la pop.
Premier choc musicaux alors?
Oui, vraiment. Oui. Et surtout les Pink Floyd. Parce qu'Alain, il avait rapporté une affiche de concert à Lyon en 70. C'était passé au Palais des Sports de Lyon. Il y avait une affiche extraordinaire. On voyait une soucoupe volante, une affiche en noir et blanc, une soucoupe volante. derrière il y avait un texte de présentation de Pink Floyd, un texte poétique. Et là j'ai eu un choc.
C'est d'abord une accroche visuelle.
Les deux, la musique et le. C'était comme des espèces de messages de l'au-delà. Mon frère apportait des choses qui venaient du monde des hippies et je regardais ça avec beaucoup d'étonnement. Quoi. J'avais 14 ans, 15 ans. J'ai retrouvé cette affiche. Il me l'avait donné. Et oui, c'était un choc esthétique.
Mais vous avez retrouvé cette affiche ?
Oui, je l'ai toujours. On voit une espèce de soucoupe volante et ils sont à l'intérieur. On voit un paysage comme le parc de Versailles. Ils sont en train de faire du yoga sur la pelouse et on voit une soucoupe volante qui décolle au-dessus de la pelouse. C'est une mise en abîme, on voit un univers cosmique à l'intérieur d'une soucoupe volante. Et derrière, il y a le programme du concert de Pink Floyd. Tout ça, ça nourrissait mon imaginaire. Donc, dès que j'ai eu la chance d'aller à un concert, j'y pensais des semaines et des semaines à l'avance. J'avais obtenu l'autorisation d'aller en Angleterre. Tout seul, pendant deux jours. J'avais ce petit magnétophone et il n'y avait pas de contrôle à l'entrée des concerts à l'époque. Surtout les Anglais étaient très, très tolérants, donc personne ne m'a rien demandé. Mais on entend la voix du public, le petit français qui crie « Ouais, Echoes, Echoes !» Donc ils ont joué tout Dark Side of the Moon. On a eu l'intégrale de l'avant-première du disque, en quelque sorte. Et le début de Wish You Were Here. Parce qu'il y avait quatre morceaux qui étaient encore en gestation. Ça s'appelait Raving and Rolling, You Got to Be Crazy. Donc on a eu Wish You Were Here en avant-première avec le diamant géant qui tourbillonne avec les facettes lumineuses comme ça. Et c'est un hommage à Syd Barrett. Et on entend la voix de Roger Waters qui règle la basse, et puis le Wright qui est au clavier comme ça, et il dit « This is a song we wrote, it's part of it is about Syd Barrett, part of it is about rock and roll in general, and it's called Shine on You, Crazy Diamond. » Voilà, et on a eu en avant-première avec le diamant, les diamants à facettes, on a eu le déroulement de. C'était très émouvant, quoi. C'était extrêmement émouvant. Parce qu'il y a eu du ratage dans le concert. Ils avaient du mal à accorder le piano, le synthétiseur de Wright avec la guitare de Gilmour. Il y avait Alors le public attendait. Puis on entendait des gens qui criaient au loin sur la pelouse. Et finalement, ils ont trouvé la bonne tonalité. Et c'est un morceau très long, quoi, comme ça, très transcendantal. Et à la fin, tout à la fin du morceau, ils jouent les petites mélodies des 45 tours de Syd Barrett, en disant da 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 da. C'est un hommage à Syd Barrett. Et mon frère Alain, pendant ce temps-là, lui, il était à la clinique de la Verrière et il trouvait son premier job à l'inspection académique de Versailles. Donc, toute l'histoire avec la folie, dans le film, on voyait l'hôpital psychiatrique dans le film. Le thème de Dark Side of the Moon, c'est la folie du monde moderne.
Parce qu'à ce moment-là, c'était la première hospitalisation de votre frère à la Verrière.
Oui, 73. J'allais le voir à la Verrière et Pink Floyd, j'écoutais tout le temps. Quoi. Tout le temps.